Jason Stearns, bonjour.
Bonjour.
À votre avis, comment peut s'expliquer en ce moment-ci une espèce de regain d'activisme des groupes armés en République démocratique du Congo?
Bon, tout d'abord, vous avez raison, c'est un regain. Il y a vraiment une crise de sens très préoccupante. C'est pas seulement l'attaque à Uvira. Il y a une coalition des Kalimutumboki qui a pris pendant presque une semaine une grande partie de la route nationale à Bunyakiri dans le sud Kivu. Il y a l'attaque des ADF autour de Beni. Donc vraiment, vous avez raison, il y a des raisons pour être inquiété. Alors, il y a deux versions qui pourraient expliquer ce qui se passe. La première a été donnée par le chef de l'État lors de son discours aux Nations Unies. Lui, il a accusé des terroristes d'être à la base de l'INSP. Il a parlé notamment du Kassai, mais il y a ceux dans la majorité présidentielle qui accusent en général les opportunistes y inclus dans l'opposition, qui profitent un peu du processus de la crise politique en RDC pour mobiliser des groupes armés contre l'État. Donc ça, c'est la première version. La deuxième version est tout à fait opposée à celui-là, donnée par l'opposition, par le G7, par Moïse Katumbi, Olivier Komitato, qui disent que c'est l'État lui-même qui est à la base de l'insécurité. Ils sont en train d'utiliser l'insécurité comme prétexte pour le glissement électoral, comme prétexte peut-être pour déclarer l'état d'urgence. Alors, il est difficile actuellement de dire quelle de ces deux versions est la bonne ou est la vraie raison. Il y a des preuves sur le terrain qui appuient, pour être franc, les deux. Il y a des endroits où on voit l'État impliqué dans la sécurité. Il y a des endroits où on voit l'opposition impliquée dans la sécurité. Et il y a beaucoup d'autres endroits où il est pas du tout clair exactement ce qui se passe.
Est-ce que vous pensez que la MONUSCO a une idée de cette analyse que vous faites, ou alors probablement une bien meilleure idée de ce qui se passe avec ce regain d'activité des groupes armés?
La MONUSCO se trouve dans un embarras, pour être franc, parce que la MONUSCO a le mandat, d'un côté, de protéger la population civile, c'est ça la priorité, ça devrait être la priorité de la MONUSCO. De l'autre côté, c'est la MONUSCO a le mandat de soutenir l'armée congolaise, le gouvernement congolais dans l'extension de l'autorité de l'État. Alors, qu'est-ce que la MONUSCO doit faire si les deux parties de son mandat se contredisent? Si le même gouvernement qui est en train de s'appuyer attaque la population? Donc, la MONUSCO se trouve dans une position vraiment très difficile. Je pense que la MONUSCO fait de son mieux de contrecarrer les groupes armés rebelles. La MONUSCO, par contre, a du mal à contrecarrer les abus qui sont perpétrés par les forces de sécurité elles-mêmes. Par exemple, au Kassai, la MONUSCO ne peut que faire des rapports sur la situation et a de très peu de moyens à sa disposition pour contrecarrer les abus des forces de sécurité technique.
Alors, la communauté internationale a investi depuis plusieurs années beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens et beaucoup d'intelligence pour essayer de ramener la RDC à un état de pays gérable. Comment pouvez-vous alors expliquer que cette communauté internationale qui a dans le passé contribué à gérer beaucoup d'autres crises et à maintenir une certaine stabilité en RDC accepte ou tolère qu'une autre crise ou une autre instabilité puisse voir le jour en République démocratique du Congo?
Vous avez tout à fait raison que la communauté internationale a investi des dizaines de milliards de dollars depuis les accords de paix de Saint-Tite en 2002, dont la stabilisation du Congo, dans la MONUC, dans la MONUSCO, dans les infrastructures, etc. Mais malgré cela, il faut, et c'est ça le paradoxe congolais, la communauté internationale se trouve assez impuissante par rapport surtout au processus politique. Il est facile de construire des routes, il est facile de construire des ponts, il n'est pas du tout facile à construire un gouvernement. Ça, c'est le travail souverain de l'État, et c'est là où le MONUSCO a du mal.
Comment voyez-vous une solution concrète, définitive, en RDC?
Pour moi, il faut trois choses à la fois. Il faut d'abord, et ça c'est le plus important, que tout le monde s'investisse dans une résolution de la crise politique qui sévit en RDC. C'est-à-dire, il faut tenir des élections transparentes, équitables, le plus tôt possible. Ça va être difficile. La FMI vient d'annoncer que ce sera plutôt en 2019. Donc, c'est très très difficile à résoudre. Donc, il faut que j'avoue que je suis assez cynique ou pessimiste par rapport à ce moment, mais il est impératif que ce soit résolu dès que possible, parce que je crains que les forces de désordre, les forces de instabilité vont commencer à vaincre les forces de modération en République démocratique du Congo.
Jason Steens, je vous remercie.
Merci beaucoup.